Vous écoutez Radio Campus 106,7 FM. L'émission donc qui commence est une émission consacrée à l'université. Et comme chaque mercredi, vous la retrouvez à 16h. Campus Lille Info démarre donc aujourd'hui avec un thème qui est tout à fait précis et dans l'actualité, puisque nous allons parler d'un événement qui va se dérouler dans cette fin de semaine. Il s'agit de la fête de la science et du village scientifique que vous pourrez donc aborder, appréhender. Ça va se passer à Lille. Dans quelques instants, nous recevrons M. Jean-Philippe Cassard, qui est vice-président de l'Université Lille 1 Sciences et Technologies, et donc qui aussi est intéressé bien sûr par la culture et le patrimoine. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette grande fête de la science qui démarre, qu'on est dans cette semaine-là, avec cet événement qui vous attend. Jean-Philippe Cassard, bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, comme chaque année, j'allais dire une fête de la science.
Oui, c'est un événement qui maintenant, depuis je pense une trentaine d'années, ponctue un peu l'année, rappelle la place importante des sciences dans la société rappelle aussi l'importance de comprendre un peu les phénomènes qui nous mènent, qui mènent la vie, qui mènent les choses. Voilà.
Alors chaque année, on va dire qu'il y a un thème qui se dégage. Cette année, on est forcément à proximité de la COP21, donc on va parler aussi climat, etc. On va s'intéresser à ces choses.
Voilà, tout à fait. C'est un choix alors donc de la commu, hein, donc communauté d'établissement, d'université et d'établissement, hein, qui est donc l'organisation régionale qui coordonne l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur public, qui coordonne donc cette fête de la science pour les établissements d'enseignement supérieur public et qui, de ce fait, a proposé donc sur la métropole d'organiser ce village des sciences à la gare Saint-Sauveur.
La gare Saint-Sauveur, donc, qui est un espace qui est grand, hein, on va dire, qui est un peu occupé aussi en ce moment par d'autres choses.
Alors, effectivement, on partage la vedette avec l'exposition Detroit, hein, mais bon, à la limite, c'est aussi le rôle de la vulgarisation scientifique, hein, d'aller au-devant de publics très diversifiés. Donc, on espère ce week-end, hein, puisque demain et après-demain, jeudi et vendredi, c'est plutôt réservé aux scolaires, hein, mm-hmm. à part la manifestation du soir, hein, donc dont on va parler de demain soir, mm-hmm. Dont on va parler tout à l'heure. Jeudi, vendredi, c'est réservé aux scolaires. Et par contre, samedi, dimanche, après-midi, c'est ouvert au grand public.
Voilà, donc cette fête de la science, c'est l'occasion, bien sûr, de présenter différents pans de la recherche et puis aussi de l'enseignement aussi des sciences.
Hein. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'en fin de compte, de nombreux acteurs de la recherche et de l'enseignement se sont un peu fédérés pour être présents sur ce village, et il y avait tellement de propositions qu'il a fallu qu'on propose des parcours, mmh. hein, pour guider un petit peu le spectateur, plutôt le visiteur, hein, puisque ça ne sera pas des spectateurs. Il y aura une participation qui sera demandée, il y a des démonstrations et on pourra aussi essayer des dispositifs, jouer. C'est donc vraiment quelque chose d'une manifestation très interactive. Et pour que le visiteur ne soit pas perdu, on lui propose 3 circuits. Alors après, on peut en faire un, on peut en faire deux, on peut faire les 3, hein, c'est selon le temps dont on dispose. Donc le premier circuit, c'est cause et conséquence du changement climatique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du changement climatique, mais essayer de comprendre ce qui est en jeu quand on parle de changement climatique, ben ça, c'est un problème de science. Et on essaiera de le décomposer en différents sous-problèmes et de les aborder de manière la plus simple et la plus ludique possible. Ensuite, c'est pas le tout de dire qu'il y a un changement climatique, on sait qu'il est dû à l'homme. La question, c'est quelles alternatives énergétiques, pardon, et peut-être économiques d'ailleurs, mais ça, c'est pas dans le village de la science. Et ces alternatives énergétiques, on les explorera en fonction aussi des technologies, mais aussi d'essayer de comprendre, par exemple, qu'est-ce qu'on dit énergie durable, qu'est-ce qu'on exprime réellement, hein, est-ce que c'est pas polluante ou est-ce que c'est renouvelable? C'est tout à fait un. Et le troisième circuit qui est assez original, c'est environnement et santé, pour montrer aussi que c'est les problèmes du réchauffement climatique, ça n'est pas simplement une question collective, c'est aussi des impacts individuels que l'on peut ressentir tout de suite.
Donc trois circuits, et selon les jours, des circuits ouverts à des publics très différents. Est-ce que pour le grand public, il y aura des explications, des commentaires, on va dire une façon de guider différente des jours où il y aura des scolaires ?
Ah oui, alors en sachant que les gens qui animent les stands de la fête de la science sont des passionnés, d'accord ? Mais il est évident qu'ils s'adaptent au public. Et même à la limite, dans une même famille, ils ne s'adresseront pas de la même façon aux parents et aux enfants. Donc le but, c'est d'effectivement d'établir le contact, l'échange, et de permettre à chacun de profiter au maximum de ce qui est proposé.
Alors qui sont ces médiateurs scientifiques ?
Alors, ils sont assez variés. Je dirais que en général, c'est quand même des collègues, puisque je suis aussi enseignant-chercheur, des collègues qui sont dans un domaine de recherche, qui sont dans un laboratoire, mais qui ont aussi la passion de faire comprendre ce qu'ils font, de faire comprendre aussi plus largement en quoi la science interfère sur des problèmes de société comme l'évolution du climat, et de le transmettre au plus grand nombre.
Voilà. C'est vrai qu'on peut remarquer que parmi les chercheurs et les gens de haut niveau, certains sont plus aptes que d'autres à présenter au grand public ce qu'ils connaissent.
Oui, alors c'est vrai que pour rencontrer le public et faire passer un message au niveau scientifique, il faut sortir de la position de l'enseignant, ça c'est évident. On n'est pas là pour transmettre une connaissance, mais c'est d'abord provoquer une curiosité. Que les gens, en voyant une démonstration, se posent des questions, et du coup, dans les réponses, on peut cheminer dans les explications. Mais ce n'est pas un discours qui va vous être imposé, loin de là, au contraire, surtout pas, c'est de la découverte.
Vous écoutez Radio Campus en 6,6 FM, Campus Lille Info comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Une émission partagée aujourd'hui avec Jean-Philippe Cassard, donc vice-président de l'Université Lille, Sciences et Technologies, qui donc nous parle de ce temps fort consacré à la science, cette semaine de la science, cette fête de la science, et d'un événement qui aura lieu demain, puisqu'il y aura l'inauguration, qui aura lieu donc à 17h à la gare Saint-Sauveur.
Tout à fait. Alors donc pour les publics non scolaires, on va dire comme ça, ce sera l'occasion de découvrir en avant-première le Villa de la Science, qui sera ouvert au grand public, je le rappelle, le week-end de 12 à 19h, samedi et dimanche. Et donc cette inauguration, elle a pour but de permettre d'abord, aux gens du village de se rencontrer, parce que quand on est chacun sur son stand, c'est un petit peu difficile de se rencontrer. Et puis aussi à des gens du grand public de venir découvrir en avant-première ce village avec des explications là qui seront, ça sera plutôt sous la forme d'une visite guidée, plutôt que d'une découverte de Chastang en détail. Et ensuite, il y aura donc une table ronde. Le but était de montrer que autour de, il y avait aussi aspects à discuter d'un point de vue scientifique, donc qui dit discussion, débat, ben, ça veut dire qu'on met les gens autour d'une table, donc le principe de la table ronde. Et cette table ronde, elle a donc comme sujet les conséquences du changement climatique, hein, donc du côté juridique, du côté des océans, hein, de l'océanographie, du côté des mouvements des populations et des espèces, et puis ensuite donc on aura aussi la question de comment gérer cette question du développement durable. Qu'est-ce que ça peut être un développement durable dans la région Nord-Pas-de-Calais?
Voilà, donc on va rappeler la chronologie. Jeudi, donc demain à 17h, Gare Saint-Sauveur, dans le hall d'exposition. Là, vous aurez donc la présentation de Climat, entre parenthèses S, cette exposition, on va dire, village des sciences sur ce thème. Ensuite, à 18h30, ce sera donc une table ronde, les conséquences du changement climatique. Et on retrouvera d'ailleurs en introduction Sandrine Rousseau, qui n'est pas une inconnue.
Tout à fait, oui, qui est donc la vice-présidente, hein, du conseil régional chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, et qui accompagne par l'intermédiaire de ses services aussi les actions de culture scientifique. Hein, donc le conseil régional est porteur actuellement, hein, depuis 2 ans, par la loi, de la coordination des opérations de culture scientifique, quelle qu'elle soit, et donc aussi partenaire principal de la Fête de la Science. Hein, donc il était tout à fait légitime, indépendamment du contexte politique actuel et de la période préélectorale, j'ai envie de dire, que Sandrine soit là pour, Sandrine Rousseau soit là pour ouvrir cette table ronde.
D'autant plus que c'est une universitaire.
C'est une universitaire, économiste, et on sait aussi que la question du climat et de l'écologie ne lui est pas indifférente.
Voilà donc cette fête de la science et ce grand moment partagé sur plusieurs jours à la gare Saint-Sauveur de Lille est en phase aussi avec la renaissance constatée ou plutôt prévisionnelle, annoncée on va dire dans notre région.
Alors d'abord on s'inscrit dans tout à fait, enfin, dans ce cadre de renaissance puisque déjà le lieu, on sera au cœur d'une des propositions de renaissance. La mairie nous a mis à disposition gratuitement le lieu pour qu'on puisse, et donc c'est une forme de, qu'on puisse faire le village des sciences au centre de la ville de Lille, en connexion avec un public qui est quand même un public fidèle et nombreux de la gare Saint-Sauveur. Donc ce soutien-là, il est important aussi, il faut le signaler, de la part de la mairie. Et puis effectivement, se poser la question du changement climatique, pas simplement en termes d'un constat un petit peu fataliste, hein, de quelque chose qui se passe, mais de regarder effectivement dans la recherche des énergies alternatives comment en fin de compte on peut évoluer, faire évoluer nos modes de production d'énergie, nos modes de consommation pour aller vers un développement plus durable, c'est se projeter dans une renaissance.
Alors c'est vrai qu'il y aura peut-être plein de réponses à des questions, aussi des solutions à des problèmes. Par exemple, il y a quelques jours, il y a eu ce drame dans le sud de la France, donc lié bien sûr à la météo, mais aussi à peut-être l'inconséquence des gens qui construisent n'importe où et qui suppriment les espaces qui peuvent, on va dire, diriger l'eau autrement que ça n'a été fait sauvagement là. Donc effectivement on se rend bien compte que l'action humaine, ses modes de vie et puis aussi l'économie aussi qui essaye de trouver des solutions économiques pour rendre les terrains plus facilement vendables sur des lieux qui ne devraient pas d'ailleurs être construits par exemple, hein. On arrive à des aberrations, donc là il y a aussi une vraie question. Là, bien sûr, on constate des effets, mais on pourrait imaginer de réfléchir avant de faire des choses.
Ah oui, alors tout à fait. Enfin, c'est ce que, en fin de compte, la recherche scientifique essaye de proposer. Hein, la recherche, elle construit des modèles qui essayent de prévoir des conséquences. Alors, par exemple, sur l'événement que vous, météorologique que vous signalez, les chercheurs disent on ne peut pas actuellement, et c'est la rigueur du chercheur de mettre les limites de discours qu'il peut tenir, affirmer que ce qu'on a constaté sur cet événement-là était dû au réchauffement climatique, mais nos modèles nous permettent de prédire que ces événements vont se renforcer en fréquence et en intensité. Mmh.
D'ailleurs, on ne parle plus beaucoup de réchauffement climatique, mais plus de modification du climat. Et par exemple, j'ai été assez étonné d'apprendre que sur 100 ans, la température globale de la Terre n'avait augmenté que de même pas 1 degré.
Oui, mais 1 degré, c'est énorme.
Mais oui.
Quand on regarde les conséquences que ça a, là, je vais employer un gros mot scientifique, hein, en thermodynamique, en changeant la température d'un degré de l'atmosphère, on modifie, on apporte des quantités d'énergie énormes, hein, il faut regarder ça, c'est qu'on apporte des quantités d'énergie énormes, et quand elles se libèrent, forcément, ces énergies, elles provoquent des événements météorologiques qui sont beaucoup plus puissants qu'avec un degré de moins.
Voilà, donc on se rend bien compte qu'il y a nécessité à chercher, mais aussi... on va dire pour les décisionnaires, enfin les gens qui décident, on va dire, les décideurs, à eux aussi de prendre en compte ce que la recherche peut leur apporter comme élément de compréhension et de projection.
Alors exactement, enfin, je pense que c'est un des enjeux de la COP21, puisqu'on s'est inscrit dans cette perspective de la conférence, hein, de Paris sur le climat. C'est bien une des perspectives de la COP21, d'arriver à faire en sorte que d'abord la réalité du phénomène soit prise en compte, que les conséquences futures nous amènent à prendre dès maintenant les décisions qui sont nécessaires. Je crois que c'est la première fois, enfin on peut le dire comme ça, dans l'histoire de l'humanité, où on est obligé de se dire on va prendre des décisions qui nous engagent parce que les conséquences prévisibles à 20, 30, 50, 70 ans, elles ne seront pas supportables pour nos descendants. Hein, donc ça, c'est vraiment une responsabilité, je dirais, éthique que l'on a, qui s'oppose évidemment à des intérêts immédiats. Hein, on est vraiment entre le conflit, entre le long terme et l'immédiateté d'un certain nombre d'intérêts économiques, mais aussi de pouvoir, de confort, hein, il faut le dire aussi, hein, qui font qu'on a plutôt tendance à dire que ça va s'arranger. La technique ne pourra pas, et ça c'est ce que les chercheurs nous disent aussi, la technique et le progrès de la recherche ne pourront pas tout résoudre si on laisse le phénomène continuer.
Alors c'est vrai qu'on parlait de 1 degré de modification en plus, bien sûr. Parallèlement à cela, il y a eu la population mondiale qui a énormément évolué. Et là, on n'est pas sur 1%, on est sur des masses considérables de personnes qui, pour vivre, ont si besoin d'énergie et de plein de choses plus ou moins durables.
Oui, mais enfin, le problème principal actuellement, c'est quand même la répartition de la consommation d'énergie. C'est sûr que si tout le monde consommait comme les Australiens ou les Américains, la Terre, elle serait déjà incapable de supporter la population mondiale. C'est pas forcément les plus grandes populations qui consomment le plus d'énergie actuellement. Donc raison de plus pour raisonner globalement et de se dire qu'il y a peut-être une autre vision du bonheur en société. Mmh. Hein, on n'est pas obligé de consommer pour être heureux. Voilà, qui permettrait aussi de se projeter sur une autre manière de voir l'avenir que simplement subir. Hein, le réchauffement climatique. Voilà. Alors, je dois quand même signaler qu'on a parlé des 1%, mais ce qui est assez inquiétant, c'est
un degré. Un
degré d'augmentation. Ce qui est quand même assez inquiétant, c'est qu'à chaque fois que le GIEC, hein, qui est donc le groupe d'experts international, fait des prévisions, son rapport suivant, hein, le constat qu'on fait donc 4 ans plus tard, c'est que la réalité a été pire que les prévisions.
Mmh. Alors justement, dans cette réalité, elle doit aussi nous amener à penser l'avenir et donc à intégrer des facteurs, par exemple comme les pays émergents qui émergent maintenant, qui sont pratiquement émergés, qui ont d'autres besoins, donc qui font apparaître certainement d'autres problèmes. Est-ce qu'on peut s'entendre avec toutes ces personnes qui appellent a aussi profité un petit peu des conforts modernes.
Alors, là, on dépasse le cadre de la fête de la science, mais je pense que c'est important de voir que un des enjeux de la COP21, c'est celui-là. C'est que les pays émergents n'aient pas l'impression que, au prétexte du climat, on leur coupe la route ou le chemin d'un certain développement. Maintenant, la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que le développement souhaitable, c'est celui qu'a connu les sociétés occidentales avec la voiture, les problèmes de... on parlait de Detroit tout à l'heure, d'une ville qu'on a construite et qu'on a fini par abandonner complètement. Si on parle de gaspillage énergétique humain, on est dans un modèle qui est quand même assez paradoxal. Donc, est-ce que c'est vraiment ce développement-là qu'il faut promouvoir? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'elle va être aussi au cœur de la COP21 parce que c'est l'accompagnement de tous ces pays émergents qui est en jeu. Et puis aussi la prise en compte de tous ces pays qui vont subir les conséquences du réchauffement climatique et qu'il va falloir accompagner économiquement pour pouvoir trouver les solutions et techniques et humaines pour pouvoir y faire face.
Jean-Philippe Cassard, à ce point de l'émission qui se termine, malheureusement, on resterait des heures à parler de ces sujets importants qui engagent notre responsabilité et celle aussi de nos enfants. Malheureusement, peut-être pour certains, qui vont devoir faire face à des erreurs que nous aurions commises, que nous avons même commises, on peut dire ça.
Oui, je pense que on peut considérer qu'il n'est pas trop tard, mais les décisions deviennent urgentes.
Alors, on va rappeler que demain, il y aura ce temps fort à la gare Saint-Sauveur, on va dire à partir de 16h, et aussi des ressources qui seront présentes tout au long de cette fête de la science dans ce lieu, puisque vous avez prévu aussi d'alimenter en informations pratiques les gens qui passeront.
Oui, alors, tout à fait. Parallèlement aux trois circuits que j'ai décrits, il y aura aussi la présence de lieux ressources, de projets qui permettront de compléter un peu les visites qui ont été faites. Je vais parler. Le premier, c'est la présentation de ce que fait l'Université de Lille à travers le projet PACT qui, en fin de compte, regarde au niveau de la formation, de la recherche, tout ce qui est possible de faire pour penser, agir, construire la transition écologique.
PACT, ça veut dire
ça. Ça veut dire penser, agir, construire la transition écologique et montrer que, effectivement, il y a déjà des enseignants, des chercheurs qui sont en train de former les décideurs de demain dans ces domaines-là, les concepteurs de demain dans ces domaines-là.
Voilà, 10 et 11 octobre, donc le projet PACT sera présenté.
Tout à fait.
Et puis, on peut peut-être dire le planétarium itinérant.
Voilà. Donc là, c'est un partenariat avec le Forum des sciences qui accueille aussi une manifestation dans le cadre de la fête de la science et qui, dans le cadre un peu du partenariat qu'on a établi avec eux, ont décidé d'être présents avec deux propositions. Le planétarium itinérant, qui est un petit peu en marge du climat, mais qui est intéressant aussi à visiter, découvrir le système solaire, peut-être que se rappeler aussi que le soleil c'est notre première source d'énergie et que c'est quasiment la seule source d'énergie réellement renouvelable.
Et permanente.
Permanente, ouais, et on espère
encore. Génial. Mais ce qui est aberrant, c'est qu'on n'utilise pas plus quand même, parce qu'on utilise des choses qui détruisent tout, alors qu'on en a vraiment en quantité.
Et la deuxième, c'est un espace doc qui est animé par la documentaliste du Forum des sciences, qui proposera un certain nombre de ressources documentaires, des ouvrages, des livres, des vidéos, pour approfondir cette question du climat.
Voilà, donc tout est prévu pour découvrir, comprendre, voire apprendre.
Ah, tout à fait. Mais quand on apprend en comprenant et en découvrant, c'est tellement plus agréable.
Et voilà, Jean-Philippe Cassard, merci, c'était bien l'objectif. Et on découvrira tout ça concrètement dès demain à la gare Saint-Sauveur de Lille.
Avec plaisir, on vous accueillera.